Europe 1, Philippe Googler.
Tous les jours sur Europe 1, entre 16h et 18h, un grand voyage. Tout à l'heure, nous partirons en Birmanie ou au Myanmar, on peut dire les deux maintenant. Nous découvrirons les Bouddhas couverts d'or et également le Slow Train, que peu de gens connaissent, mais c'est le train le plus lent du monde. Il est là-bas, en Birmanie. Il faut aller le chercher, il est bien caché, mais il est incroyable. Là, pour l'instant, nous sommes en Champagne jusqu'à 17h. Et c'est le moment où Nathalie nous raconte des histoires croustillantes. Alors évidemment, Nathalie, vous êtes dans les bulles.
Bah oui, parce que le champagne, en effet, c'est synonyme de légèreté, d'histoire drôle et puis sulfureuse, bah pourquoi pas. Oui, alors vous aurez reconnu évidemment la musique du célébrissime Goldfinger. Vous allez voir, je connais bien mes classiques, hein, ouais. Philippe. Par exemple, tenez cette petite phrase du grand Sean Connery. Ma chère petite, il y a des choses qui ne se font pas, telles que boire du Dom Pérignon 55 à une température au-dessus de 3 degrés. C'est aussi malsain que d'écouter les Beatles sans boule qui est. Et puis une autre...
Ce qui ne veut pas dire grand-chose, en vrai.
Bah, ça veut dire qu'il n'aimait pas trop les Beatles, visiblement. Puis une autre parole d'expert. Alors là, on est avec Winston Churchill, le premier ministre britannique, qui était fou de champagne, et pas que de champagne, hein, j'en profite pour le dire. Eh bien, il avait baptisé l'avenue de Champagne à Épernay, qui est d'ailleurs classée au patrimoine mondial de l'UNESCO à cause de ses façades magnifiques. Il l'avait baptisé l'avenue la plus buvable du monde. Sans transition, Philippe, savez-vous pourquoi les bouteilles de Crystal Roederer ont un fond plat?
Ah ben non, je sais pas.
Eh bien... Chaque année, Alexandre II, tsar de Russie, entre 1855 et 1880, il commande 60% de la production de la maison de champagne Louis Roederer. Et puis un jour, il va commander un champagne de prestige, mais avec deux exigences bien particulières. Il veut ce champagne dans une bouteille en cristal de Baccarat, mais surtout avec un fond plat. Et ça n'est pas un caprice. C'est parce que, en fait, au cours de son règne, il a subi beaucoup de tentatives d'attentats. Donc, il veut à la fois une bouteille de champagne transparente pour vérifier qu'aucun poison n'y soit versé. Et puis surtout, un fond plat pour éviter de cacher une bombe ou un explosif dans ce qu'on appelle la piqûre. Vous savez, c'est la cavité dans le fond de la bouteille. Donc, c'est la naissance du Crystal Roederer champagne de légende. Ce qui n'empêchera pas le pauvre Alexandre II de rendre l'âme dans un attentat. En 1881.
Ah, dis donc, c'est dingue cette histoire.
Les bouteilles sont toujours à fond plat ou pas de...
Pour cette cuvée prestige, Crystal Roederer, absolument.
Cela dit, ça prouve que si on avait inventé un poison transparent, on aurait pu atteindre le tsar.
Oui, enfin, ils n'ont peut-être pas réussi en temps en heure.
C'est dingue. Vous avez d'autres histoires comme ça liées au champagne?
Oui, alors par exemple, est-ce que vous saviez que la ville de Reims peut être considérée comme l'une des capitales de l'aviation naissante à cause du champagne? Oui, alors il faut bien vous dire que presque tous les dirigeants des grandes maisons de champagne étaient très attentifs aux premiers balbutiements des nouveaux modes de transport, dont l'aviation. Ouais. Et donc en 1909, sur l'instigation du marquis de Polignac, qui est entré par mariage, par le biais des alliances, dans la famille Pommery, va se tenir, avec le soutien de la plupart des grandes marques, la première grande semaine de l'aviation en Champagne. Alors, il y a le président de la République, Armand Falière, il y a vraiment l'élite de l'aviation mondiale qui est conviée, c'est un vrai succès. Et puis, ça récidive l'année suivante, mais il y a des accidents. Et bien que le record des 100 km/h soit établi à Reims, ces tournois d'oiseaux, comme on disait, n'auront plus lieu là-bas.
Ah, d'accord. Et alors, la tradition des bateaux, vous savez qu'on baptise au Champagne avant qu'ils partent, ça se fait toujours d'ailleurs. Vous avez quelque chose à raconter là-dessus?
Oui. Ah, le petit baigneur. Le petit baigneur. Vous savez que depuis le XVIIIe siècle, on bénit les bateaux nouvellement construits. C'est un rituel français, mais qui a été rapidement adopté par les Britanniques. Il y a même un proverbe anglais qui dit « Un navire qui n'a pas goûté au vin goûtera au sang ». Alors c'est malheureusement vrai. Ben oui, c'est malheureusement vrai dans le cas du Titanic, parce qu'il paraîtrait, selon la légende, que la bouteille de champagne a refusé de se briser en heurtant la coque.
Du Titanic ?
Oui, Titanic, oui. Par contre, il y a un bateau français, alors en revanche, il a été vraiment super bien baptisé celui-là. C'est le paquebot Île-de-France, un chef-d'œuvre de l'art déco qui prend la mer pour la première fois en juin 1927. Il s'en va pour relier le Havre à New York. Et lors de la traversée inaugurale, les 1550 passagers ont siphonné tenez-vous bien, 20 000 bouteilles de champagne, ce qui a fait que ce bateau a été surnommé le plus beau seau à champagne du monde.
Et ça fait presque 20 bouteilles par personne.
Oui, mais en fait, on est en pleine période de la prohibition aux États-Unis, donc les passagers américains s'en donnent à cœur joie sur les transatlantiques français, donc tout est normal.
Ah, oh, dis donc. Incroyable vos histoires. Mais où est-ce que vous allez chercher tout ça?
Je bosse les week-ends.
C'est dingue. Et une coutume troyenne du pays à raconter peut-être?
Ah oui, là on est dans... J'aime bien les musiques médiévales. On est dans un registre un petit peu différent. Je vais vous parler des foires de Champagne. Ouais. C'est pas la foire à Champagne, hein, c'est la foire de la région de Champagne. Alors imaginez-vous, la foire de Paris avec ses milliers d'exposants, mais à ciel ouvert et de façon quasi ininterrompue pendant une année entière, avec notamment deux...
Permanente.
Une foire permanente avec notamment deux événements, la foire chaude de la Saint-Jean, c'est-à-dire le 24 juin, et la foire froide de la Saint-Rémy, le 15 janvier, c'est-à-dire été comme hiver de la foire.
Je suis sûr que vous préférez la chaude.
Écoutez Philippe, on n'est que lundi, je vous en prie, attendez vendredi. Bon alors ces foires, trêve de plaisanterie, elles sont célèbres, absolument célèbres dans le monde entier, dès le Moyen-Âge, grâce à un homme, le comte Thibaut II de Champagne, qui va attirer toute l'Europe en instituant ce qui s'appelle à l'époque le conduit des foires. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire la sécurité pour les marchands qui vont à la foire ou qui en reviennent. Parce que dites-vous bien qu'à l'époque, on se fait vite dépouiller sur la route par des bandits de grand chemin.
Oui.
Donc ça devient une institution. Imaginez une cohue de Flamands, d'Italiens, d'Espagnols, de Grecs, de Turcs, de Provençaux qui se rendent à Troyes en caravane pour vendre et acheter des marchandises qui remplissent les halles. Il paraît que même l'Asie et l'Afrique ont leurs représentants sur place. C'est vraiment extraordinaire, y compris pour les échanges internationaux entre commerçants.
Merci beaucoup Nathalie pour toutes ces histoires. On s'en lasse pas. Ça doit être sympa d'être un enfant de Nathalie. Le soir, elle vient vous raconter des histoires.
Non, non, je lui dis dégage, c'est pas le moment.
Vous êtes dur. Dans un instant sur Europe 1, alors d'habitude, c'est qu'est-ce qu'on boit avec ça? Mais là, c'est plutôt qu'est-ce qu'on mange avec ça. On fera le point sur le et la champagne avec Emmanuel Jarry dans un tout petit instant sur Europe 1.